Bara ju bara ju det det för jam
Luyidish, aujourd'hui, chanson, musique, littérature, théâtre, événements, actualité, avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour, shalom aleichem, bonjour Yael.
Bonjour.
Voilà, donc c'est le retour de Yael. Astrid n'est pas là, mais donc nous sommes à deux. Et on va parler des personnages de la Bible. Donc j'avais commencé la semaine dernière de parler de Ève. Et là, puisque Yael est là, j'ai donc choisi un texte du livre de Bashe Wissinger qui s'appelle « Au tribunal de mon père ». En yiddish, « In ma tatens beis din stube ». Puisque ce tribunal, c'était en fait l'appartement des parents de Zinger et de son frère et de sa sœur, bien sûr, où des gens venaient consulter le rabbin pour différentes questions religieuses. Donc voilà, c'est vraiment un tribunal tout à fait rudimentaire, mais fort utile, et où Bashe Wissinger a pu observer énormément de choses. Oui, les personnages bibliques, puisque là, c'est une histoire qui ne se passe en fait pas du tout chez son père. Ça se passe au Cheder. Donc là, c'est des histoires que raconte Isaac Bashe Wissinger sur sa propre enfance et sur ce qu'il a vécu lui-même, donc dans ce Cheder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque tout le temps des personnages bibliques, et en particulier Joseph. Donc Joseph et ses frères. Donc, qui sont en fait ses camarades du Cheder, ce n'est pas ses vrais frères, mais ses camarades du Cheder, et donc les relations parfois un peu complexes qu'il a avec eux. Voilà, donc c'est tiré de la traduction de ce livre, dont la première parution en anglais est de 62, et là c'est une réédition en post-stock, traduit de l'anglais par Marie-Pierre B. C'est des histoires toujours très, très savoureuses, très émouvantes, très bien écrites, vraiment, et c'est le regard d'un enfant. Voilà, donc c'est un petit garçon, mais c'est Yael qui va lui prêter sa voix d'enfant. Et donc, c'est un texte qui s'appelle « Les fortes têtes ».
Les fortes têtes. On a trop souvent décrit le Cheder comme un endroit où des enfants innocents souffraient entre les mains d'un professeur paresseux et acariâtre. Mais ce n'était pas tout à fait cela. Ce qui n'allait pas au Cheder, c'était ce qui n'allait pas non plus dans la société. Il y avait le garçon qui gardait toujours les poings serrés à la recherche de quelqu'un à frapper. Des assistants tyrans et des flatteurs l'entouraient. Un autre garçon qui préférait ne pas recourir à la violence jouait au petit saint, souriait à tout le monde, rendait des services, toujours avec une expression qui faisait croire à une affection sans bornes. Mais sous ses airs tranquilles, il complotait pour vous extorquer des choses sans rien donner en retour. Il montrait de l'amitié au tyran tout en feignant de la sympathie à l'égard des victimes. Quand son ami le tyran décidait de donner un coup de poing sur le nez de quelqu'un, le petit saint courait vers la victime, un mouchoir à la main, tout en réprimandant gentiment le tyran. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Il y avait un autre garçon qui ne s'intéressait qu'aux affaires. Il échangeait un bouton contre un clou, un peu de pâte à modeler contre un crayon, un bonbon contre un petit pain. Il perdait à chaque traction, mais au bout du compte, il profitait de tout le monde. La moitié du Cheder lui devait de l'argent, puisqu'il ne prêtait qu'avec intérêt. Il avait un arrangement avec le tyran. Quiconque n'était pas de parole avait son chapeau arraché. Puis il y avait le menteur qui se vantait d'appartenir à une famille riche et célèbre, à laquelle l'élite de Varsovie venait rendre visite, en nous promettant de partager avec nous les dattes, les figues, les raisins secs et les oranges qu'il devait recevoir à d'hypothétiques mariages ou circoncisions. Ou au cours des vacances d'été, tout à fait théoriques, il nous extorquait à tous des cadeaux d'avance. Il y avait enfin la victime. Un jour, le tyran le fit saigner du nez. Le lendemain, il offrit un présent au tyran. avec un sourire qui exprimait une abjecte soumission. Il indiqua au tyran un nouveau garçon à rosser. De ma place, je voyais tout ce qui se passait au Raider, et bien que le tyran m'eût battu, je ne lui offris ni sourire ni cadeau. Je le traitai d'esclave et lui prédis qu'il irait dans l'au-delà, sur un lit de clous. Pas la peine, il me battit de nouveau, mais je ne faiblis pas. Je ne voulais rien avoir à faire, ni avec le tyran, ni avec le petit saint, ni avec l'oursuée, ni avec le menteur. Et je refusais de leur faire le moindre compliment. Les choses n'allaient pas trop bien pour moi. Presque tous les garçons m'étaient hostiles et allaient dire du mal de moi au professeur. Quand ils me croisaient dans la rue, ils me criaient qu'ils me casseraient une jambe. Après tout, j'étais trop petit pour affronter le Raider au complet. Aller au Raider tous les matins était une torture. Mais je ne pouvais pas me plaindre à mes parents. Ils avaient leurs propres soucis. En outre, ils me diraient sans doute « Voilà à quoi cela mène d'être différent des autres. » Il n'y avait rien à faire qu'attendre. Même le diable finissait par se lasser. Dieu, s'il était du côté de la vérité et de la justice, devait inévitablement prendre parti pour moi. Le jour vint où je me dis que je n'en supportais pas davantage. Le professeur lui-même m'en voulait. Et pourtant, je connaissais bien mon roumage. Sa femme fit des remarques venimeuses sur mon compte. C'était comme si j'avais été rejetée de la communauté.
Voilà donc ce pauvre Isaac Bachevis, tout petit. Donc, Yael m'a demandé quel âge il avait. À peu près, je pense, 6-7 ans. Hein. Ce sont des enfants jeunes du primaire. Il y a aussi donc cette peinture de différents personnages, de différents types. Ça, c'est déjà plus le regard d'un adulte. Donc, il y a celui qui tape, il y a l'usurier, il y a le flatteur, il y a aussi le menteur. Voilà, et donc, Yael me disait, c'est comme un peu Monsieur Gourmand, Madame Tranquille, etc., les personnages que les enfants aiment bien. Et ce pauvre Bachevis, lui, il est vraiment victime, on peut dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement. Il est tout à fait désespéré et il sait qu'il n'aura aucun appui de ses parents, donc il doit juste continuer à supporter sa situation. On va voir ce qui va lui arriver. Mais en attendant, on va écouter donc un morceau de musique sorti de ce disque Jewish Culture, une anthologie, et donc c'est Naftali Brandwein qui va nous jouer un Freilichen Yontef. Thank you. Voilà donc une joyeuse musique pour accompagner cette histoire qui jusque-là n'est pas très joyeuse. Mais on va voir ce qui va se passer ensuite.
Et puis un jour, tout changea. Le tyran, qui pour une fois avait mal calculé la force d'un nouveau, reçut une raclée à son tour. Après quoi, le professeur se rua sur le tyran, qui avait déjà une grosse bosse sur la tête. Il le traîna jusqu'à un banc, l'obligea à baisser son pantalon et le fouetta devant tout le monde. Tel Haman, le tyran était puni. Quand il tenta de réinstaurer son règne de terreur, il fut repoussé en faveur de son vainqueur. Le sourire aussi tomba. Le père d'un des garçons, qui avait payé trop d'intérêts, apparut au raider pour se plaindre. Une fouille dans les poches de l'usurier produisit de tels résultats qu'il fut fouetté à son tour. L'hypocrisie du petit saint fut démasquée. Au bout du compte, malgré ses secrets chuchotés et ses flatteries, puis, comme en réponse à mes prières, les autres garçons recommencèrent à me parler. Les flatteurs et les trafiquants m'offraient leurs services et leurs bonnes affaires. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais même pu former un groupe à moi. Mais je ne m'en sentais pas l'envie. Il n'y avait qu'un garçon dont je désirais l'amitié. Mendel était un bon garçon, un brave garçon, sans aucune ambition. Nous étudions dans le même pantotoc et nous promenions bras dessus, bras dessous. Les autres jaloux, intrigués comme nous. Mais notre amitié ne changeait pas. Nous étions comme David et Jonathan. Une fois que j'eus quitté le raider, notre amitié persista. J'avais fréquenté d'autres raiders et de chacun j'avais gardé un ami. Parfois, le soir, nous nous retrouvons près du marché et nous marchions le long des trottoirs, en bavardant et en échafaudant des plans. Mes amis s'appelaient Mendel Besser, Mortel Horowitz, Abraham quelque chose, Bruce David. J'étais plus ou moins le chef de la bande. Et je leur répétais des choses que j'avais entendues. Mon frère dire à ma mère. Il existait entre nous une grande confiance. Jusqu'au jour où j'eus l'impression qu'ils m'en voulaient. Ils se plaignirent soudain que j'étais trop autoritaire. J'avais besoin d'être un peu remis à ma place. Une révolution se préparait. Et je le lisais sur leur visage. Quand je leur demandais en quoi je les avais offensés, ils se conduisirent comme les frères de Joseph et me répondirent de façon très inamicale. Ils n'étaient même plus capables de me regarder en face. Pourquoi m'enviaient-ils donc ? Mes rêves, étaient-ce à cause de mes rêves ? J'avais l'impression de les entendre chuchoter entre eux dès qu'ils me voyaient approcher. « Attention, voilà le rêveur ! Égorgeons-le, jetons-le au fond d'un puits, vendons-le aux Ismaélites !» Il est douloureux d'être au milieu de ses frères quand ceux-ci sont jaloux. Ils avaient été de bons amis, ils m'avaient admiré. Et d'un seul coup, ils étaient devenus méchants. Ils m'en voulaient. Quand je venais les retrouver, ils me tournaient le dos et se murmuraient des secrets. Je ne suis pas quelqu'un qui se lie à la légère. Je ne me fais pas facilement de nouveaux amis. Je me demandais si je m'étais mal conduit à leur égard. Si je les avais trompés. Mais en ce cas... Pourquoi ne pas m'avoir averti que quelque chose ne leur plaisait pas ? Je ne voyais pas en quoi, ni comment, je pouvais les avoir blessés. Je n'avais jamais dit du mal d'eux. Et si quelqu'un m'avait calominé, pourquoi mes amis m'avaient-ils cru que le calominateur, après tout, ils étaient mes amis ? Ils n'avaient rien qu'à attendre et voir venir. Les garçons comme moi doivent s'habituer à être seuls. Et quand on est seul, il ne reste rien. Que le travail. Je me plongeais dans l'étude. Je passais des jours entiers à la maison. L'étude de Razimine et étudier des ouvrages religieux à la maison. Je lisais tout le temps. J'achetais ou empruntais des livres à des marchands ambulants. C'était l'été et les jours étaient longs. En lisant une histoire où il était question de trois frères, l'idée me vint que je pouvais écrire moi aussi. Je commençais à remplir une feuille de papier. Il y avait une fois un roi qui avait trois fils. Le premier était sage, le deuxième était fou et le troisième était gay. Mais finalement, l'histoire ne prit pas corps. Sur une autre feuille, j'entrepris de dessiner des êtres humains monstrueux et des animaux fantastiques. mais je me fatiguais vite et sortis sur le balcon regarder la rue et les passants. J'étais le seul à être seul. Les autres garçons couraient, jouaient, bavardaient ensemble. « Je vais finir par devenir fou, me dis-je. Trop de choses me passent par la tête. Ne devrais-je pas sauter du haut du balcon ou cracher sur la casquette du concierge ?» Ce soir-là, à la maison, d'études de Radimine, un garçon entreprit des travaux d'approche. Il jouait le rôle d'intermédiaire. Il me parla avec tact, suggéra que mes amis étaient très désireux de parvenir à un accord, mais comme je représentais une minorité, c'était à moi de faire les premiers pas. En bref, il me demandait de plaider pour une trêve. Cela me rendit furieux. « Ce n'est pas moi qui ai commencé, dis-je. Pourquoi ce serait à moi de faire des avances ?»« Tu le regretteras, m'avertit-il. « Va-t'en, ordonnai-je. » Il partit très en colère. Je savais que mes amis étaient pleins de remords, mais je ne leur céderai jamais. Rien de ce que tu as à me dire peut m'intéresser, dis-je. Ah, voilà une lettre, répondit-il. C'était comme une scène tirée d'un roman. Mes amis m'écrivaient que je leur manquais. Nous errons dans une sorte de brume. Je me rappelle tout ce qu'il disait dans ces lettres. Malgré ce grand triomphe, j'étais tellement plongée dans mon livre que le fait qu'il soit venu faire amende honorable ne me paraissait plus très important. J'allais dans les cours et ils étaient tous là. Cela me fit retrouver penser à Joseph et ses frères qui étaient venus le trouver pour lui acheter du grain. Mais pourquoi mes amis étaient-ils venus me trouver? Enfin, ils étaient là, honteux, un peu effrayés. Simon, Lévi, Judas. Comme je n'étais pas devenu le maître de l'Égypte, il ne leur fut pas demandé de s'incliner jusqu'à terre. Je n'avais rien à vendre, sinon des rêves. Jusque tard dans la soirée, nous restâmes ensemble et je leur parlais de mon livre. « Ce n'est pas une histoire, c'est de la littérature, » dis-je. Je recréerai pour eux une fantastique mélange d'épisodes réels et de produits de mon imagination et leur communiquer mon excitation. Les heures passèrent, ils me prièrent de leur pardonner. Avouèrent qu'ils avaient eu tort. Et promirent de ne plus jamais se fâcher avec moi. Ils prirent parole. Seul le temps nous sépara. Son œuvre fut achevée par les meurtriers allemands.
Voilà, merci à elle. Donc, cette histoire très émouvante. Toutes ces histoires au tribunal de mon père semblent extrêmement simples. C'est le regard d'un enfant, mais en fait, il y a toujours une construction très très habile et qui est dissimulée derrière cette apparente simplicité. Donc là, je parlais des personnages bibliques. Alors vous avez entendu, il y a Ésaü. Ensuite, il y a Haman, hein, donc le méchant de l'histoire d'Esther. Et puis David et Jonathan, donc les deux personnages qui sont dans le livre de Samuel. Qui sont des amis, et on sait que Jonathan essaye désespérément de protéger David des atteintes de son père, de l'inimitié que lui porte Saül. D'ailleurs, il le protège efficacement, hein, je dis désespérément parce que ce pauvre Jonathan est pris entre deux feux, entre sa fidélité à son père et sa fidélité à son ami David. Et il va trouver une fin tragique puisqu'il va être tué avec son père lors d'une bataille. Mais David et Jonathan sont restés comme vraiment l'image de l'amitié, peut-être avec aussi un peu d'homosexualité. Enfin là, il y a beaucoup de discussions. En tout cas là, Bachevisiguer l'emploie vraiment comme l'exemple de l'amitié qui reste. Et puis surtout, bien sûr, l'histoire de Joseph, donc Joseph et ses frères. Joseph qui se vante et Bachevis se dit que lui ne s'est pas vanté. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi tout d'un coup ses amis lui sont hostiles alors qu'il trouve qu'il avait toujours une attitude très, très correcte. Il dit qu'il est trop autoritaire. Ils disent qu'il est trop autoritaire. Dans l'histoire de Joseph, c'est vrai que Joseph raconte à ses frères ses rêves où il se prosterne devant lui. Ce qui sont des rêves prophétiques, hein, comme l'a dit Yaël. Mais à l'époque où il les raconte, les frères le prennent très mal. Et donc, effectivement, ils veulent le tuer. Et ils veulent le mettre ils le mettent dans une fosse. Et puis finalement, ça se termine par le fait qu'il se prosterne devant lui lorsqu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, qui a une grande puissance. Et tout ça, Schlesinger l'intègre, donc déjà comme enfant, hein, oui, je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que ses enfants étaient absolument imbibés de lecture de Chumash, de ces histoires de la Bible qu'ils connaissaient extrêmement bien, et où ils pouvaient s'identifier au personnage. Hein. Donc ça, là aussi, on a déjà le début de l'auteur, hein, de la construction de l'écrivain. Alors l'écrivain qui, à un moment, regarde et ne se mêle pas de ce qui se passe, qui essaye d'être en dehors, même si ce n'est pas facile, et qui observe et qui prend presque des notes. Ensuite, il y a la solitude de l'écrivain, l'auteur qui est seul, rejeté de tous, et qui, dans la solitude, commence à lire d'abord, hein, puisque c'est vrai que pour écrire, il faut beaucoup lire. Donc, commence à lire et puis commence aussi à écrire, même si bon, ce que nous raconte Bachevis de ses essais d'écriture est vraiment très, très, très limité. Mais enfin, c'est aussi l'époque, il le cite, mais on ne l'a pas lu. Il lit même « Crime et châtiment », hein, de Dostoïevski, qui est un livre pas facile. Alors, il a peut-être déjà quand même 9-10 ans. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment la construction de l'écrivain. C'est le regard d'enfant, mais le regard d'enfant vu par quelqu'un qui est tout à fait adulte. Hein, donc, il a une soixantaine d'années quand il écrit tout ça. Et donc, c'est ce qui fait vraiment le charme de ces petits récits qui sont vraiment tous extrêmement réussis. Voilà, eh bien, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Et puis, merci Thomas. Le yiddish, aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern. Aïe, aïe, aïe.